Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Ce soir, je reçois Olivier Duris, qui est psychologue clinicien et chercheur. Bonsoir Olivier Duris.
Bonsoir Serge Tisseron.
Alors, vous êtes donc psychologue dans un hôpital de jour pour enfants autistes et vous utilisez très largement les outils numériques, les tablettes, les ordinateurs et même un robot dans votre travail avec ces enfants. Alors d'abord, est-ce qu'on pourrait dire quelques mots de l'autisme pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce mot?
Oui, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui relient cette question de l'autisme à des films comme Rain Man par exemple, donc généralement des autistes de haut niveau, voire un syndrome d'Asperger ou autre, donc des gens qui peuvent être très doués dans un domaine mais qui ont des problèmes au niveau de la sociabilité ou des relations, etc. Alors que c'est vrai que dans les hôpitaux de jour dans lesquels on travaille, on est plus en contact avec des enfants qui vont être classés selon certaines classifications comme la CIM-10 d'autistes atypiques ou d'autistes sévères. Donc ça veut dire généralement des jeunes avec des troubles soit du comportement, soit du développement ou alors des retards mentaux, etc.
Oui, Rain Man, c'est ce film avec Dustin Hoffman, et tous les gens qui l'ont vu ont en mémoire la scène où l'un des membres de sa famille tombe une boîte d'allumettes et immédiatement il voit combien il y a d'allumettes qui sont par terre.
C'est ça, voilà.
Capacité de calcul prodigieuse. Alors donc, Rain Man, c'est un film sur une personne qui présente un syndrome d'Asperger, mais en plus un syndrome d'Asperger bien particulier puisque c'est un autiste savant. Tous les autistes n'ont pas un Asperger et tous les autistes n'ont pas savant, et c'est notamment le cas de beaucoup de ceux que vous avez dans votre institution.
C'est ça, voilà. On a beaucoup d'enfants qui ont donc en effet des troubles au niveau de la relation, du fait des capacités d'être avec l'autre, etc. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que beaucoup de ces enfants ont pas mal de retard au niveau de la compréhension, même du langage, ou alors aussi du déplacement, de tout ce qui est praxie, etc. Donc c'est vraiment un autre travail qu'il faut faire. Il faut faire attention à ne pas considérer que tous les autistes sont des autistes de haut niveau. Il y a vraiment d'autres types d'enfants avec lesquels on travaille, et c'est surtout ceux-là qu'on reçoit en hôpitaux de jour, en fait.
Alors, il y a aussi un bruit qui court autour des enfants autistes ou des adultes autistes, ça serait leur grande familiarité avec les technologies numériques. Alors, est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est une réalité, au moins pour certains d'entre eux?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, on entend beaucoup parler. Alors, dans mon boulot, j'ai dû remarquer quand même que, en effet, les enfants autistes ont beaucoup de familiarité avec les écrans, donc particulièrement les tablettes, donc tous les écrans qui sont tactiles. Après, on remarque aussi que tous les enfants, en général, ont une très grande facilité à utiliser ces outils-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens qui vont créer les applications et tous les écrans tactiles, en général, font en sorte de pouvoir utiliser des éléments simples de pensée, en fait, d'un point de vue cognitif, etc. Dans le sens où ça va être très simple pour un enfant de pouvoir essayer pour voir, de pouvoir travailler avec ce qu'on va appeler l'intelligence visuo-spatiale, et que l'enfant soit autiste ou ne le soit pas, il aura une facilité à utiliser les écrans.
Oui, je crois que c'est le coup de génie de Steve Jobs, notamment d'avoir imaginé des interfaces où on touche, on frotte, on tapote, voire on caresse, c'est-à-dire le mode de relation primitif de l'être humain, son environnement.
C'est ça. Par exemple, Steve Jobs a inventé quelque chose d'assez magnifique sur l'iPhone, c'est le principe de caresser l'écran de gauche à droite pour pouvoir déverrouiller l'iPhone, quelque chose qui est d'ailleurs très instinctif. Donc les enfants vont le faire aussi. Par contre, il faut faire attention à ne pas non plus tomber dans le panneau, je vais dire, dans le sens où si on donne une application qui peut être assez complexe à utiliser au niveau de la réflexion, l'enfant autiste peut avoir certains problèmes. Par exemple, si on lui fait jouer à un jeu de solitaire, il arrivera à déplacer les cartes, mais par contre, c'est pas dit qu'il arrive à finir une partie, par exemple. Donc les gens font souvent ils oublient en fait ce qu'on va appeler l'intelligence narrative, donc le fait de pouvoir soit comprendre ce qui va se passer dans le jeu, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire. Et par contre, d'un point de vue visuo-spatial, l'enfant autiste va être très doué pour pouvoir interagir avec l'écran, avec les choses qu'il voit et tout ça. Donc ça dépend surtout de l'application.
Mais très souvent, quand on parle des enfants autistes, ce qu'on met en avant, c'est leur difficulté à communiquer avec d'autres humains. Or, vous, vous utilisez des outils numériques. Est-ce que ça ne leur fait pas justement courir le risque de replier leur communication sur ces outils numériques? Est-ce que ça ne leur ferait pas courir le risque, justement, de les détourner encore plus d'une relation avec un être humain?
C'est vrai que c'est une question que je me suis posée au tout début, quand j'ai commencé à avoir envie de travailler, donc Serge Tisseron. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est en lisant pas mal de vos articles que je me suis dirigé vers ce travail-là. Par exemple, beaucoup de gens m'avaient dit au début, les jeux vidéo et les tablettes numériques, c'est bien avec les enfants entre guillemets névrosés. Par contre, ne t'approche pas des autistes ou de la psychose, tu risques de faire du mal aux patients ou ça n'apportera rien. Et je me suis dit, c'est un peu étrange quand même, parce que j'ai l'impression que ces enfants-là, de toute façon, ils jouent à la maison, ils utilisent ces écrans. Donc, de toute façon, autant essayer d'apporter un peu un cadre thérapeutique autour d'eux quand ils vont les utiliser pour pouvoir les aider à mieux les utiliser, mieux les gérer. Peut-être que ce qu'on va faire à l'hôpital avec eux, ils pourront aussi l'amener à la maison. Et aussi leur faire découvrir de nouvelles applications qu'ils ne connaissaient pas. Et même, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ces écrans et qu'il n'y a pas que du négatif, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans la diabolisation des écrans avec tous les messages qu'on peut entendre certaines fois. Ça dépend comment on s'en sert, en fait.
Oui, alors justement, Olivier Duris, je crois que vous avez très à cœur d'organiser des activités de groupe avec ces enfants autistes, faire en sorte qu'ils ne soient pas chacun avec leur tablette ou leur ordinateur dans leur coin, mais faire en sorte qu'ils participent ensemble à une activité partagée.
Les activités de groupe, c'est un petit peu ce que je préfère, en fait. Quand je me suis formé à la fac, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié tous les cours qui étaient sur les techniques de groupe et tout ça. C'est vraiment là-dessus que j'ai voulu me spécialiser. Donc, je fais aussi des thérapies individuelles, mais c'est vrai que je trouve très intéressant de pouvoir travailler sur cette question des écrans en groupe, parce que les écrans ont un avantage par rapport, par exemple, à la lecture individuelle, je veux dire, c'est que ils sont partageables. Donc plusieurs enfants peuvent être sur le même écran, discuter de ce qu'ils voient, interagir entre eux. Par exemple, sur une tablette, on peut avoir deux enfants sur une tablette, ou alors chacun aura sa tablette mais pourra se l'échanger ou autre. Et par rapport aux jeux vidéo, on pourrait avoir, par exemple, 3-4 enfants qui sont face à un écran projeté et qui vont discuter entre eux de ce qu'ils voient, pouvoir se passer la manette et tout ça. Et on remarque qu'en groupe, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'écran, mais aussi en dehors, avec le simple cadre, ce qu'on va appeler l'enveloppe groupale, le fait qu'ils puissent créer une dynamique de groupe entre eux, avec l'écran comme médium, en fait.
Alors, en pratique, comment vous faites pour créer cette dynamique de groupe? Parce que quand vous en parlez, j'arrive pas bien à me le représenter.
Alors, on va expliquer très vite le cadre, le dispositif de ces ateliers. Donc, pour les ateliers jeux vidéo, je vois normalement à peu près 3 à 4 enfants par semaine. Donc ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Et on est tous assis à l'horizontale, chacun côte à côte, avec donc soit je suis le seul adulte, soit je vais avoir une éducatrice avec moi pour des fois un peu cadrer les enfants ou discuter avec eux. Et aussi généralement une stagiaire ou un stagiaire qui vont être en observateur. Donc ça fait presque du un adulte pour un enfant. On est assis face à un écran qui va être projeté sur un mur. Comme ça, l'écran est assez grand. Et l'intérêt, c'est qu'au début, je me demandais si j'allais jouer juste sur ordinateur ou sur écran projeté. C'est que déjà, l'écran est plus grand. Et en plus, les enfants vont pouvoir se mettre entre le projecteur et le mur. Donc, ce qui va leur permettre de jouer avec leur ombre, ce qui est très intéressant aussi. Ils vont pouvoir plonger leur ombre dans le jeu vidéo directement. Et en plus, certains enfants, des fois, vont s'amuser quand même à ouvrir l'ordinateur portable et donc bénéficier d'un espèce de double écran. La même chose sur deux écrans différents, ce qui peut permettre pour certains enfants qui peinent à être en groupe de se séparer un petit peu des autres au début en ne regardant pas le même écran qu'eux. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que en fonction des problématiques des enfants, donc je vais voir ce que j'ai envie de travailler avec eux, je vais choisir un jeu vidéo. Donc soit je vais prendre un jeu qui se joue à plusieurs en même temps, donc peut-être à 4, par exemple les 4 vont jouer tous ensemble en même temps, ou alors à 2, et donc ça se fera 2 par 2, ils échangeront leur manette, ou alors un jeu qui se jouera seul, et donc là le travail sera de jouer sa part du temps, par exemple si on est 4 et qu'on a une heure, donc un quart d'heure par enfant, et après passer la manette à l'autre.
Alors justement, Olivier Duris, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des jeux que vous avez choisis? C'est d'ailleurs une question qui revient souvent dans la bouche des parents, aussi bien les parents d'enfants qui n'ont pas de symptômes particuliers, ou les parents d'enfants présentant différents symptômes de l'ordre de l'autisme d'ailleurs ou pas, et souvent la question qui revient, mais c'est quel jeu vidéo utiliser? Alors voilà, Quel jeu utilisez-vous, vous, Olivier Duris ?
Alors, déjà, l'avantage, c'est que je suis moi-même un grand joueur de jeux vidéo. Donc, j'avoue que j'en connais pas mal, ce qui me permet un peu de diversifier. Et comme j'ai ce côté joueur, je vais essayer d'en utiliser des différents chaque année, histoire de voir un peu ce qu'on peut faire chaque année et voir ça. Et donc, mes jeux préférés par rapport à la thérapie, surtout des enfants autistes, ça va être tout d'abord le jeu ICO, qui a été très utilisé déjà dans l'histoire de la thérapie par les jeux vidéo, qui est un jeu japonais qui est sur PlayStation 2 et maintenant sur PlayStation 3 aussi, où on contrôle un petit garçon qui est exclu du monde normal des humains parce qu'il est né avec des cornes, et il se retrouve dans une prison sur une île et il essaie de s'échapper. Et il rencontre une petite fille, Yorda, qui ne parle pas la même langue que lui et qui doit le guider parce que c'est elle qui peut ouvrir les portes à travers donc ce monde pour qu'il puisse en sortir.
Donc c'est un jeu qui valorise l'entraide, la réciprocité.
Exactement, parce que en fait, il va surtout travailler d'un point de vue thérapeutique sur la question de la séparation et de l'abandon. Parce que cette petite fille, on doit la tenir par la main pour qu'elle puisse nous suivre, et elle ne peut pas se déplacer toute seule. Et les ennemis dans le jeu ne nous attaquent pas nous, ils attaquent cette petite fille, ils essaient de l'emporter avec elle. Et nous donc on doit la tenir par la main en appuyant sur un bouton de la manette, et quelquefois on doit la lâcher pour pouvoir résoudre une énigme ou faire quelque chose. Et c'est très marrant parce que on a des enfants qui ne peuvent pas lâcher la manette, qui ne veulent pas lâcher cette petite fille, ou d'autres au contraire qui ne veulent pas la tenir et vont la frapper tout le temps en disant non mais bouge, j'ai pas envie d'être avec toi, ou des choses comme ça. Et donc c'est très intéressant de pouvoir avancer en groupe là-dessus.
Alors il y a un autre jeu que vous utilisez qui s'appelle Spore.
Oui, alors Spore aussi, qui est un jeu très intéressant, qui est un jeu qui a été créé par la société Maxis, donc qui a créé les Sims, donc jeu extrêmement connu de tous. Et en fait, Spore, c'est un jeu où on commence par contrôler une petite cellule dans l'eau qui grandit petit à petit et qui ensuite va devenir une créature, en fait, qui va sortir de l'eau et se développer. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'on est face vraiment à ce que vous avez appelé, vous, Serge Tisseron, dans votre livre « La pâte à modeler numérique ». Donc le principe de pouvoir modeler soi-même son avatar comme on le souhaite. Donc on peut lui mettre, si on veut, 40 yeux, des oreilles partout, une énorme bouche qui fait tout le corps. Ou au contraire, j'ai vu un enfant, par exemple, ne pas vouloir mettre Dieu à sa créature. Et on peut quand même jouer, mais le monde sera très flou, comme si la créature avançait avec juste l'ouïe et l'odorat. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que ça va permettre aux enfants de pouvoir investir totalement leur avatar, parce qu'ils l'auront créé de A à Z. Et en fait, ils pourront faire plein de choses avec, par exemple, créer une famille, parce que pour créer un nouvel avatar, il faut se reproduire avec un autre de l'espèce, et quand l'œuf va être pondu, on va travailler en fait sur l'ADN du futur avatar, en fait.
Et je crois que ces deux jeux, vous les utilisez avec des enfants qui ont beaucoup de difficultés de communication.
Exactement. Parce qu'il y a d'autres jeux que j'utilise qui sont des jeux un peu plus compliqué, un peu plus complexe que beaucoup de joueurs vont connaître, par exemple Ori and the Blind Forest, Trine ou autre. Mais ces deux jeux-là, donc qui sont Spore et ICO, sont des jeux vraiment bien pour des enfants avec, on va dire, des troubles sévères, donc qui peuvent avoir soit des troubles du langage, soit des difficultés motrices ou autres, parce que déjà, ils nécessitent pas beaucoup de travail d'un point de vue cognitif. On n'a pas besoin de contrôler deux joysticks en même temps. Le sport se joue juste à la souris et on a juste à cliquer sur où on veut aller. Et ICO, c'est, vu que c'est une caméra fixe, en fait, on a juste un seul joystick qui permet de déplacer l'avatar.
Et est-ce que pour vous, l'aspect thérapeutique, c'est le jeu des enfants ensemble sous le regard d'un adulte, ou est-ce qu'il y a aussi une partie de commentaires, d'intervention de l'adulte?
Eh bien, les deux. En fait, déjà, il y a ce que Benoît Virol appelle la co-immersion patient-thérapeute, le fait que je sois assis à côté des enfants pour et que je sois immergé en même temps qu'eux dans le jeu, et ce qui permet en fait de rappeler un petit peu l'attention mère-enfant au début de la vie, en fait, avec le bébé, c'est très important aussi pour lui. Et ensuite, le principe même déjà qu'on soit en groupe, et tout ce qui est dynamique groupale a un côté thérapeutique, et ensuite, ce qui va se passer dans le jeu directement. Alors, généralement, je fais pas beaucoup de commentaires sur ce qui se passe parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le jeu et ça peut répondre parfois à la problématique de l'enfant. Et à certains moments, bah, je vais faire ce qu'on appelle, on va dire grossièrement, une interprétation. Ça veut dire dire des fois quelque chose qui peut être la vérité du patient, du sujet, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le jeu.
Et pour des enfants qui ont un peu moins de difficultés de communication, je crois que vous utilisez aussi les SIPS, auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure. Peut-être en dire quelques mots pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers de ce jeu.
Alors les Sims, c'est un jeu très intéressant qui est un jeu de simulation de vie où en fait on peut créer son personnage, voir sa famille et puis sa maison. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit que certains enfants vont préférer vraiment créer une maison de A à Z, donc décider combien de pièces ils mettront, où est-ce qu'ils mettront les meubles et tout ça, et d'autres aiment faire vivre leurs Sims. Ce qui est assez intéressant, c'est que le jeu ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. On peut très bien décider de faire soit de la construction, soit de la vie d'avatar, soit les deux. Et on remarque que beaucoup d'enfants s'amusent à créer des familles qui sont à peu près comme les leurs. Enfin, en tout cas, dans le cas de la pathologie autistique, en fait. Ils essaient de rejouer vraiment quelque chose avec ce qu'on va appeler l'identification projective, le fait de se projeter un petit peu, en fait, dans l'écran, de faire jouer quelque chose avec leurs avatars.
Alors là, ils construisent à partir de rien, enfin, à partir de quelques briques numériques, leur famille. Mais il y a un autre jeu que vous utilisez, je crois, c'est Trine 2, dans lequel, là, il y a trois héros. Alors, il faut choisir quel héros on utilise pour résoudre chacune des difficultés. C'est la collaboration gérée par le joueur entre trois héros qui ont des capacités complètement différentes.
C'est ça. Quand j'ai découvert ce jeu, à la base, c'était juste en tant que joueur, donc pas en tant que psychologue qui cherchait des jeux pour ses thérapies. Et je suis tombé amoureux de ce jeu. Parce qu'en fait, déjà, c'est dans un univers fantastique, féerique, très, très poétique, avec de belles musiques et tout ça. Et on a vraiment trois avatars différents, un archer, un chevalier et un magicien. Et chacun a des pouvoirs spéciaux, donc le chevalier va être celui qui frappe et qui casse les murs, l'archer va être celle qui peut se déplacer un peu comme Tarzan en fait, de liane en liane et qui peut disparaître, et le magicien qui peut faire léviter des objets et tout ça. Et en fait, ce jeu est bourré d'énigmes, et pour pouvoir passer, avancer dans le jeu, il faut utiliser les capacités de chacun. Et donc quand on a trois enfants dans le groupe, c'est très intéressant comme jeu parce que chacun va pouvoir incarner n'importe lequel des personnages. Ils ont d'ailleurs le choix de s'échanger les personnages de temps en temps. En fonction des groupes, on a à peu près tout. Soit on a des enfants qui, pendant X mois, le temps qu'on utilise ce jeu, ne voudront jamais changer de personnage, donc ils s'accaparent celui-là et disent « bah moi je suis l'archer par exemple ». Soit on a des groupes où, au contraire, chaque semaine, on note qui a joué quoi et les semaines suivantes, ils voudront changer.
Et alors, quels sont les changements les plus importants que vous observez au cours de ces ateliers, Olivier Duris ?
Eh ben, on en a eu plusieurs, donc et ça dépend vraiment du sujet. C'est toujours une question d'individu en fait. Donc par exemple, on a eu une fois un enfant qui n'arrivait jamais à parler de lui à la première personne, en disant je suis, je pense ou autre. Il parlait toujours de lui à la troisième personne, et voire des fois c'était un peu flou. Par exemple, il m'avait demandé de l'aide une fois en me disant je t'aide et en me prenant ma main. Et au fil du temps, dans les jeux vidéo, avec l'utilisation de ce médium, on a réussi au bout d'un moment, en travaillant avec son rapport à l'avatar, au fait qu'au bout de quelques mois, il soit capable de dire « Olivier, j'ai besoin d'aide ». J'ai aussi eu une fois un enfant qui était très très distancé dans le groupe en fait. Il était arrivé dans un groupe où il y avait déjà trois enfants, qui le mettaient beaucoup de côté, qui étaient assez agressifs avec lui, même en dehors de cet atelier-là, dans l'hôpital. Et en fait, en travaillant sur un jeu qui se jouait à quatre et où chacun devait s'entraider les uns des autres, petit à petit, on est arrivé sur un enfant qui était très autiste, beaucoup dans le retrait, et qui d'ailleurs le disait clairement en dessinant au tableau. Il écrivait les noms des quatre enfants du groupe et barrait les trois autres noms, sauf le sien, jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, il soit tellement rentré dans le groupe grâce à cette dynamique qui s'est mise en place, qu'il a réécrit les noms des enfants et qu'il a tout entouré d'un cercle. Donc c'était très joli à voir d'ailleurs. Enfin, c'est une très belle histoire.
Ah oui, une belle histoire, une belle métaphore.
Voilà,
pour
exactement.
Le coup, inventée par un enfant autiste.
C'est ça.
Voilà. Et donc, ce que vous décrivez, ce sont des avantages en termes de socialisation.
Exactement. En fait, on peut voir vraiment que à travers les écrans, peut se passer quelque chose de la socialisation. Et c'est ce que, d'ailleurs, vous disiez, vous, dans votre livre, Serge Tisseron, c'était le fait que un écran, c'est fait pour être partagé. Et ça, c'est vraiment la chose que chaque thérapeute doit comprendre, et même chaque parent, parce que c'est vrai qu'à la maison, ça serait bien aussi que chacun comprenne que l'écran, c'est pas fait pour être seul dans sa chambre, même quand on est puni ou autre, c'est fait pour être assis tous ensemble à côté.
Voilà, l'écran, c'est pas ce qu'on regarde, c'est ce dont on parle.
Exactement.
Je crois que vous avez aussi choisi une musique qui va nous permettre de rester dans ce même registre, hein, puisque
exactement.
Je crois avoir compris qu'elle est faite par un ordinateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Oui, en fait, je suis tombé sur cette musique en cherchant une pour cette émission, justement. Donc, c'est une musique qui s'appelle Dadiskar. Et c'est une musique qui a été composée par une intelligence artificielle. Alors, beaucoup de gens disent la musique a été entièrement composée par une intelligence artificielle. Sauf que quand on se renseigne un petit peu, on voit que c'est une espèce d'intelligence artificielle qui a récupéré 13 000 ou 14 000 musiques qui étaient déjà créées et qu'un homme était derrière ce programme et a décidé « je veux que la musique ressemble aux Beatles » pour le coup. Et donc la musique a créé des choses, donc une partition et autres, et encore un homme était derrière et a créé les paroles et a tout réenregistré avec des instruments physiques, on va dire. Et je lisais un article sur cette musique, je sais plus sur quel journal, et le journaliste a écrit que cet homme avait écrit des paroles entre guillemets inquiétantes par rapport au fait que ce soit une intelligence artificielle qui l'ait créée, et en disant à croire que l'intelligence artificielle lui avait soufflé les paroles pour cette chanson. Et j'ai vraiment voulu mettre cette musique en place parce qu'en fait, elle reflète un petit peu cette espèce de peur qu'on a des intelligences artificielles aujourd'hui. Ça veut dire que même si, oui, elle a composé cette musique, et d'ailleurs c'est très sympa à écouter, il y avait toujours un homme derrière et qu'il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle lui a soufflé les paroles. Peut-être qu'il a voulu écrire en rapport avec cette musique, mais en tout cas, ça restera toujours lui qui est le compositeur et qui a décidé de créer ce qu'il a voulu. Et donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut entendre.
Merci beaucoup, on va l'écouter.
Culture, matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, avec vous, Olivier Duris, aujourd'hui. Alors, on vient de parler des tablettes, des ordinateurs et de l'utilisation qu'on peut en faire avec les enfants autistes, mais vous avez même poussé le bouchon un peu plus loin, puisque maintenant, vous vous êtes procuré comme compagnon thérapeute un robot Nao. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'abord de ce robot ?
Alors, le robot Nao, c'est un robot qui a été créé par une entreprise française qui s'appelle Aldebaran, donc qui maintenant a été racheté par SoftBank, entreprise japonaise. Et c'est un robot qu'on peut qualifier de mignon. Il fait à peu près 58 cm. Il ressemble à un petit enfant peu près, et il est blanc et bleu ou blanc et rouge. Les gens le connaissent généralement, ils l'ont toujours un petit peu vu quelque part parce qu'il passe souvent dans les publicités. Oui. Je crois que Darty l'utilise d'ailleurs.
Oui. Il a deux bras, deux jambes, il faut le préciser, c'est un robot humanoïde, c'est contrairement à beaucoup de robots proposés aujourd'hui sur le marché qui sont plutôt des boules montées sur roulettes. Lui a vraiment deux bras, deux jambes.
Oui, et il se déplace vraiment, il peut bouger les bras, il peut marcher, il a deux grands yeux. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que ses yeux ne sont que des LED, c'est pas avec ça qu'il voit, ses caméras sont au niveau de la bouche et du menton, et du front, pardon.
Les yeux sont donc des lumières, uniquement qui clignotent, qui ont la possibilité de clignoter en plusieurs couleurs selon les émotions que le robot serait censé éprouver.
C'est ça, et il parle surtout, et c'est ce que je trouve très intéressant, avec une voix métallique, donc qui n'est pas non plus dissonante, il est très sympa à écouter, mais en tout cas il a une voix vraiment robotique.
Alors ce robot aussi, il y a la possibilité de le programmer, hein. Et c'est là que votre activité de passionné de technologie numérique va intervenir.
C'est vrai que ça a été quelque chose de très compliqué. Quand on a eu le robot à cet hôpital, donc c'était maintenant il y a un an, il a fallu que je me forme donc au début tout seul, et puis ensuite avec des formateurs, pour pouvoir comprendre comment programmer ce robot. Ça a été assez compliqué, parce que on va dire que le logiciel de programmation n'est pas ce qu'on appelle user-friendly, ça veut dire n'est pas très facile pour l'utilisateur qui n'est pas spécialisé en programmation. Mais en tout cas, une fois qu'on sait faire, qu'on apprend un peu tout seul ou avec quelqu'un, on est capable de tout faire avec ce robot. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que le robot est vraiment juste une simple poupée mécanique et on peut décider de lui faire faire ce qu'on veut. On peut le faire marcher, parler. Moi, par exemple, je lui fais beaucoup raconter d'histoires. Il a aussi une reconnaissance des visages et tout ça. Et c'est vraiment à nous de tout créer de A à Z.
Et il peut dire ce que les enfants autistes ont envie de lui faire dire, par exemple. Ou il peut bouger comme les enfants autistes ont envie de le faire bouger.
C'est ça. Par contre, bien sûr, il faut faire attention à une chose, c'est que tout ce qu'il dit, je lui aurais écrit auparavant. Il ne peut pas tout seul, en tout cas, apprendre des choses, on n'est pas face à ça non plus.
Alors, comment est-ce que vous l'utilisez? Je crois que là aussi, vous avez imaginé d'organiser une activité de groupe autour de ce robot.
Oui, alors en fait, avec le robot Nao, j'ai plusieurs thérapies en place. Alors la première, qui est vraiment une thérapie dans le cadre de la recherche, donc qui est très protocolaire, qui est une activité de groupe, où en fait, on va faire en sorte que le robot raconte un conte aux enfants. On a 6 enfants qui sont placés en arc de cercle face à un robot, face au Nao.
Oui, il faut préciser que raconter un conte, c'est une activité traditionnelle des hôpitaux de jour pour enfants autistes. Hein. C'est en principe un éducateur, un psychologue qui raconte un conte. Et donc, vous avez fait le pari, vous avez eu plutôt la curiosité d'essayer de voir si quand un robot raconte le conte, les choses se passent pareil ou autrement que quand c'est un humain qui raconte.
Voilà, parce que on faisait déjà des ateliers contes dans cet hôpital de jour depuis quelques années maintenant. Une collègue avait été formée à cette thérapie-là et c'était quelque chose d'assez passionnant. Donc chaque semaine, ça dure à peu près une heure, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode de Pierre Laforgue, où en fait on raconte un conte donc sur plusieurs semaines. Donc dans l'ordre, on a les 3 petits cochons, le loup et les chevreaux, le petit chaperon rouge et Hansel et Gretel. Et en fait, on raconte l'histoire, donc ça dure à peu près 10-15 minutes. Ensuite, les enfants vont rejouer la pièce. Et ensuite, donc en changeant de rôle chaque semaine, et ensuite ils vont dessiner chacun sur une feuille un dessin en rapport avec l'histoire qui a été contée. Et on fait ça comme ça chaque semaine pendant 2 ans. Et là, je me suis dit, donc avec aussi ma directrice, la psychologue collègue et tout ça, on était beaucoup à se dire, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer de remplacer le psychologue qui compte par un robot qui compte?
Et quand c'est un psychologue qui compte, quel est l'effet escompté de cet atelier?
Alors on remarque qu'il y a beaucoup d'intérêt en fait à l'usage du conte quand c'est raconté par un psychologue. Ça va être un intérêt par rapport à la dynamique groupale, par rapport aussi au fait de pouvoir mieux comprendre une histoire. Anne Brun a écrit, donc une psychologue et psychanalyste de Lyon, a écrit un article passionnant sur l'usage de la thérapie par le conte, où elle explique vraiment tout ce qu'un enfant peut faire. Par exemple, les enfants autistes vont pouvoir travailler sur toutes ces pulsions, tout ce qui est de l'ordre de l'archaïque. Donc l'archaïque, c'est vraiment ce qui est le tout début en fait dans la vie de l'enfant. Et aussi pouvoir travailler et à la fois sur ce qui va se jouer dans le conte, par exemple les trois petits cochons, pour faire simple, c'est le contenant, par exemple les maisons qui vont s'écrouler et celle qui tient, mais aussi travailler sur le fait de pouvoir rejouer l'histoire, de pouvoir se l'approprier.
Donc une manière de socialiser leur représentation individuelle plutôt terrifiante, mais les socialiser à travers des représentations de la culture partagée.
C'est ça, le but c'est vraiment de travailler sur le partage, l'écoute et la mémoire aussi, et la socialisation.
Donc ça, c'est avec le psychologue. Alors vous, vous introduisez un robot Nao, alors que fait-il ?
Alors le robot Nao, il raconte l'histoire. Alors il la raconte toujours de la même manière. Et ça déjà, c'est très intéressant pour les enfants autistes, parce que les enfants autistes ont besoin, en fait, d'une répétition. Et c'est d'ailleurs ce que le psychologue essaie de faire à chaque fois, dans chaque thérapie. Sauf que c'est compliqué pour un humain de toujours répéter la même chose exactement.
Il n'y a pas que les enfants autistes, hein. Tous les parents qui ont eu à raconter des histoires à leurs très jeunes enfants savent bien que le jeune enfant veut qu'on la raconte toujours pareil.
C'est vrai, c'est vrai. Et avec les autistes, c'est vraiment très important.
Encore plus.
Voilà, exactement. Et donc là, avec le robot, on est sûr qu'il racontera toujours la même histoire. De la même façon, avec les mêmes intonations et tout ça. On peut en plus rajouter des sons et des musiques pour travailler sur l'immersion, ce qui est assez intéressant aussi pour les enfants pour pouvoir plus facilement comprendre l'histoire. Et surtout, le robot, il fait pas de mimique, en fait. Il n'a pas d'expression faciale comme nous, et donc c'est beaucoup plus simple pour les enfants autistes, pour qui c'est très complexe, en fait, de nous entendre parler et de nous voir en plus faire des expressions du visage, parce que ça leur fait plusieurs messages différents à décrypter en même temps, et ce qui peut être très confusionnant pour eux.
Oui, on n'a pas évoqué ça, mais en effet, c'est une approche récente de l'autisme et de plus en plus partagée, hein, la difficulté de l'enfant autiste à pouvoir gérer la complexité de la relation humaine.
C'est ça. Et donc là, au moins, le robot, lui, il a un visage fixe, et donc il raconte son histoire, et on peut l'entendre. Par contre, bien sûr, l'humain est toujours à côté, parce qu'il faut faire attention aussi, beaucoup de psychologues ou même d'équipes soignantes en général ont peur qu'on essaie de remplacer les psys par les robots. Alors que non, en fait ça a été remarqué dans beaucoup d'études, il faut toujours qu'il y ait un humain qui soit là dans la thérapie pour que ça serve à quelque chose. D'ailleurs, on le remarque, les enfants sont très intéressés par le robot, ils en sont passionnés, ils sont absorbés, mais ils cherchent toujours le regard avec l'humain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de les voir regarder l'humain pour leur dire « regarde ce que fait le robot ». Donc il faut quand même que le psychologue soit derrière. Et donc ça, c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, dans cette méthode qu'on utilise, il y a un rituel, c'est qu'à chaque fois, on commence le conte par une phrase ritualisée, donc qui est « cric-crac, c'est l'heure du conte ». Et on finit aussi par une phrase ritualisée. Et ça, c'est pas le robot qui le dit. C'est vraiment à l'humain de le dire. Donc c'est l'humain qui est porteur du cadre. Le robot n'est que la machine qui raconte une histoire.
Et donc je crois que vous êtes en train d'essayer de comparer qu'est-ce qui se passe quand c'est l'humain qui raconte et qu'est-ce qui se passe quand c'est le robot. C'est bien ça.
C'est ça. On a deux groupes. Donc un groupe témoin, qui est le groupe avec un psychologue qui raconte, et un groupe expérimental avec le robot.
Et d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu peut-être les bonnes surprises que vous avez eues dans ce groupe ou peut-être aussi des déceptions que vous avez eues?
Alors déjà, au niveau des surprises, j'ai été très très étonné par la rapidité qu'ont eu les enfants à comprendre le conte dans le groupe robot. Dans le groupe expérimental, il nous a fallu à peu près 6 mois, un petit peu moins, pour que les enfants qui écoutaient le conte puissent le rejouer en pièce de théâtre. Dans le groupe robot, il leur a fallu 4 semaines. Donc ça a été extrêmement rapide en fait.
Ils ont... Ça, Olivier Duris, vous vous y attendiez pas ?
Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que pour nous, c'était le principe même de l'histoire qui était compliqué, et le fait que le robot raconte, on se disait ça sera peut-être plus rapide, mais pas 6 fois moins long, en fait. Donc c'était vraiment impressionnant, et surtout, en fait, on a remarqué que, en plus de pouvoir répéter l'histoire, il aurait fallu encore moins de temps pour se l'approprier vraiment.
Oui, c'est ça la chose importante, parce que sinon on pourrait dire, bon, comme elle était toujours pareille, ils l'ont prise par cœur plus vite, mais enfin on voit pas très bien où est le bénéfice en termes thérapeutiques. Et vous semblez dire aussi qu'ils se sont appropriés, c'est-à-dire ils ont pu ensuite en témoigner, la dessiner autrement, etc.
Ils ont pu, par exemple, changer leur dessin, et aussi l'imitation. Par exemple, généralement, quand les enfants imitent le psychologue dans le groupe témoin, ils font les mêmes gestes que le psychologue. Quand les enfants imitent le robot, au début, ils font les mêmes gestes que le robot, mais après, ils arrivent à faire des gestes beaucoup plus humanisés. Ils s'imaginent ce que ferait, par exemple, le loup ou le cochon, plutôt que ce que fait le robot. Et quand les enfants rejouent la pièce, ils arrivent à changer les phrases. Ils ne les répètent plus au mot près, contrairement à ce qu'ils font dans le groupe expérimental, dans le groupe témoin, pardon.
Avec le psychologue humain.
Avec le psychologue humain. Là, ils arrivent vraiment à rajouter des mots. Par exemple, un enfant qui, au lieu de dire, quand il joue la maman des cochons qui leur dit « vous allez partir dans la forêt », et ben il rajoute aussi « parce que vous savez, vous n'avez pas de papa, moi je suis votre maman, je dois m'occuper de vous » et tout ça. Donc c'était très amusant parce que l'enfant ressortait sa problématique, il avait réussi à intégrer son histoire à l'histoire qu'il était en train de rejouer. Chose que les enfants du groupe témoin, donc le groupe avec le psychologue, faisaient moins.
Comme si la neutralité du robot avait finalement facilité leur appropriation de l'histoire.
Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est une des hypothèses.
D'accord. Et vos déceptions, alors peut-être il y en a aussi quand même, il ne faut pas hésiter à les évoquer.
Alors la première déception, je dois vous avouer, Serge Tisseron, c'était surtout dans les thérapies individuelles. Donc ça veut dire quand on sort de ce cadre-là, je vois des enfants seuls avec le robot. Et donc en fonction de la problématique de l'enfant, on fait des travaux un peu différents. Soit on va programmer le robot, soit on va essayer d'interagir avec lui, le faire parler ou autre. Et j'ai un enfant que je suis, donc, qui est un autiste assez sévère, hein, donc, qui n'a pas le langage, qui est assez violent, entre guillemets, donc, qui peut donner des coups secs sur les objets, qui s'amuse beaucoup à frapper le robot, mais pas seulement pour le frapper, mais surtout pour l'observer se relever. Parce que le robot se relève automatiquement, c'est très impressionnant à voir d'ailleurs. Et l'enfant aime beaucoup le pousser et lui tenir les pattes, enfin les pieds, et le voir se relever comme ça, et voir qu'il tient encore, et surtout qu'il lui en veut pas, et qu'il est toujours content de se relever, et pas triste d'être tombé. C'est très joli à voir.
La technologie, mais par contre, c'est un élément de plus, une formule souvent évoquée, comme quoi la technologie ne culpabilise pas.
Exactement. Et donc ça, c'est très beau à voir, mais ma déception, elle est là, c'est que le robot est quand même encore assez fragile. Et donc, en le faisant tomber, on a déjà eu un doigt cassé, on a eu une fois la batterie qui partait. Et le problème de la batterie qui s'en va, c'est que le robot tombe et s'éteint d'un coup. Et ça, c'est très angoissant pour l'enfant. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait penser peut-être à continuer à faire des robots comme ça, mais en tout cas, les protéger un peu plus dans le travail avec l'autisme, faire en sorte que on sait que ces enfants-là peuvent les faire tomber, peuvent les casser, et donc éviter le plus possible les angoisses qui arrivent si le robot lâche à ce moment-là, en fait. Et sinon, après, les autres déceptions...
Oui, Olivier Duris, je vous interromps, mais est-ce que c'est pas en même temps une bonne manière de rappeler que c'est une machine, justement? Si la batterie roule à côté du corps du robot, il est normal que le robot ne bouge plus.
Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que oui, il faut toujours rappeler que c'est une machine, mais je pense qu'il y a d'autres manières de le faire que le robot qui s'éteint directement en tombant.
Alors comment vous le faites, vous?
Alors déjà, la chose qu'on fait tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'un enfant va être pris en charge dans une thérapie robotique, c'est toujours essentiel que la première séance, on le sorte de la valise devant lui, on l'allume devant lui et on lui explique que c'est une machine. Et ensuite, bah c'est assez intéressant parce qu'on a des enfants qui nous demandent en fin de séance de l'éteindre devant eux. Alors de toute façon, on l'aurait fait, mais là c'est eux qui viennent vraiment le voir pour ça.
Et il y en a qui demandent d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre aussi.
Alors, pour l'éteindre, on peut aussi lui dire « éteins-toi ». Et les enfants adorent se rapprocher de lui et lui dire « éteins-toi ». Mais c'est vrai que c'est vraiment ma déception principale, c'est sa fragilité.
D'accord. Et alors, tout ça, donc, c'est des activités que vous menez dans cet hôpital de jour. Mais dites-nous un petit peu comment réagissent les autres membres de l'équipe, parce qu'on sait combien c'est compliqué d'introduire le changement dans une institution. Et introduire une tablette, un ordinateur, bon, c'est presque devenu banal. Hein, mais en revanche, introduire un robot, ça ne l'est pas. Alors, comment les autres membres de l'institution se situent-ils par rapport à cela? Est-ce que là aussi, il y a de bonnes surprises et de peut-être certaines déceptions?
Alors déjà, je dois avouer quand même que j'ai eu énormément de chance parce que je travaille dans un hôpital de jour, donc de l'association Cérep Fimentin, et qui m'a extrêmement bien accueilli quand je suis arrivé. En fait, j'ai été accueilli en tant que stagiaire à la base pour mettre en place des ateliers numériques. Ça a été déjà le premier pas en avant de l'hôpital qui mettait en place pour la première fois ces ateliers-là. Et ça a été quand même vraiment bien reçu. La directrice et la directrice adjointe avaient ce projet de mettre ça en place, donc il y avait vraiment un désir quelque part. Et les éducateurs aussi étaient intéressés. On a senti quand même une réticence parmi certains. Il a fallu pouvoir en parler, pouvoir discuter de ça en réunion.
Est-ce que l'âge est un facteur de réticence, à votre avis? Non, les plus jeunes étant les plus intéressés et les seniors moins?
Je ne sais pas si c'est l'âge, parce que même en ayant parlé à certains collègues de mon âge, ils étaient aussi réticents, alors que d'autres qui avaient 60 ans trouvaient ça passionnant. Je pense que c'est vraiment le rapport qu'on peut avoir avec le numérique et surtout avec tous ces fantasmes qui sont partagés. Et donc l'important, c'est vraiment de le montrer à l'équipe et de toujours continuer en réunion à aborder ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Qu'est-ce que ça a pu nous apporter et tout ça? Et
communiquer, j'ai senti que, communiquer voilà. sans arrêt autour de ce qui se passe.
C'est ça. Et je me rappelle que les collègues qui étaient les plus réticents ont commencé à trouver un intérêt au bout du moment où j'ai commencé à parler de cas cliniques qui s'étaient améliorés, où j'ai pu présenter certains articles que j'avais écrits ou autres. Et pour le robot, bah, ça a été pareil. En fait, vu qu'il y avait déjà eu, on va dire entre guillemets, cette révolution numérique, bah, la robotique, c'était qu'un pas de plus. Donc on a eu des réticences parmi les collègues, mais ils ont su aussi, dès le début, je leur expliquais quel était l'intérêt, qu'est-ce que je voulais faire avec. On leur a tout présenté de A à Z. Et les réticences sont assez vite parties. Et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir vraiment former les équipes à comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec ce robot, qu'est-ce qu'on ne va pas faire avec. Leur montrer un peu l'éthique de notre travail et casser un peu tous les fantasmes qui peuvent être là. Leur montrer aussi que, de toute façon, le numérique et la robotique, ce ne sont que des outils. Et qu'on ne soigne pas avec... Enfin, on ne va pas dire qu'un crayon est thérapeutique parce que le dessin, on l'utilise en clinique. Ce qui compte, ce n'est pas le crayon, c'est ce qui va se passer avec le dessin de l'enfant, ce que le psy va dire. C'est pareil avec le robot et les écrans. Et donc, leur expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant d'amener ça dans un hôpital de jour, de vivre dans ce monde contemporain, en fait. Parce que les écrans, on les a tous à la maison. Donc, autant les amener aussi à l'hôpital, les robots... on les aura un jour tous à la maison, autant les amener déjà à l'hôpital.
Et est-ce qu'il vous arrive aussi de programmer le robot en fonction des attentes des enfants?
Alors, pour le moment, j'ai surtout programmé le robot pour qu'il raconte des histoires, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Mais là, en thérapie individuelle, ça fait donc quelques mois qu'on essaie de programmer avec les enfants en même temps, en fonction justement de leurs attentes, mais en direct. Ça veut dire que là, je ne travaille pas seul chez moi, mais c'est vraiment en situation thérapeutique, en clinique, avec les enfants, qu'on va commencer à programmer un petit peu, par exemple une petite danse. Et l'enfant va me dire, j'ai envie que l'enfant danse sur cette musique en particulier, j'ai envie qu'il fasse ce geste, puis ce geste. Et donc ensemble, on va programmer ça en fait.
Donc, donner à ses enfants le goût de transformer le monde par robot interposé, en quelque sorte.
Exactement.
Là où ils peuvent avoir de la difficulté à communiquer eux-mêmes avec un humain, les inviter à vous demander à faire en sorte que le robot puisse parler, bouger, danser et finalement interagir dans un premier temps à leur place. Et puis ensuite, si j'ai bien compris, s'approprier ces changements eux-mêmes.
Exactement. Et pouvoir aussi nous intéresser tous les deux à un objet qui est en face de nous. Éviter le regard direct, enfant-thérapeute, qui peut des fois être angoissant pour l'enfant, et donc se diriger notre regard vers cette machine, qui au final n'est qu'une poupée mécanique. Mmh. Et ça, les enfants le remarquent assez vite, c'est très intéressant. Et pouvoir avancer là-dessus, et ensuite petit à petit développer un discours entre nous, pouvoir échanger, parler, tout ça.
Donc on part de l'humain, on passe par le robot, on revient à l'humain.
Il y aura toujours de l'humain.
Bien, eh ben écoutez, Olivier Duris, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre travail, je crois que vous allez l'exposer le 7 octobre à un colloque qui s'appelle Robotique et santé mentale. Et les auditeurs qui s'intéressent peuvent s'informer sur le site de l'Institut pour l'étude de la relation homme-robot, IERHR, sur Internet.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup.
Eh bien, merci Duris. À vous, Serge Tisseron.
Et n'oubliez pas, vous tous qui nous écoutez, que nos objets sont au cœur de nos économies affectives. C'était Matière à penser, Olivier Duris, Tahar Bouklifa, Thierry Beauchamp, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.